Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Je déclare l'audience ouverte.
Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais.
Le juge des libertés et de la détention, il est confronté à la banalité du mal, dans ses formes extrêmes et dans son opacité aussi.
Béatrice Penaud est au micro de Natacha Tatu.
Je suis effectivement juge des libertés et de la détention depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une fonction stratégique parce qu'en droit français, c'est le juge des libertés et de la détention qui place en détention provisoire. Ce n'est plus le juge d'instruction depuis une réforme de l'an 2000. J'autorise aussi des actes d'enquête, tels que les perquisitions, les écoutes téléphoniques, les géolocalisations, certaines saisies. Donc je suis le gardien des libertés individuelles. C'est une charge extrêmement importante, c'est une charge mentale, comme on dit, très importante. C'est une charge tant sur le plan quantitatif que moral. Je traite à peu près une trentaine d'affaires par semaine. Et le nombre des dossiers que je traite a augmenté d'ailleurs, d'environ 20% en 3 ans. Donc face à ce nombre croissant de dossiers, je dois gérer mon stress. Ce désir de justice, il est né très tôt, c'est un désir d'enfance.
En fait, vous aimiez avoir le pouvoir aussi, le pouvoir de décider.
C'est l'exercice du pouvoir décisionnel, effectivement, mais toujours dans l'intérêt général. Ce n'est pas jouir du pouvoir pour le pouvoir, c'est exercer une autorité que je vis plutôt comme un arbitrage dans l'intérêt donc général. C'est aussi pour moi une façon de connaître les arcanes de la société et les profondeurs aussi de l'âme humaine.
À quel type d'affaires êtes-vous confronté dans un département comme celui du Val d'Oise?
Alors, j'ai pu constater en quelques années que la délinquance en Val d'Oise se durcissait, et qu'elle tendait à se rapprocher de celle du 93.
C'est-à-dire
des trafics de stupéfiants, c'est aussi des cambriolages violents, du proxénétisme et surtout l'énorme masse des violences intrafamiliales.
Oui, vous dites avoir été très frappé par l'augmentation de cette violence intrafamiliale et notamment vis-à-vis des enfants.
La violence, effectivement, dans nos sociétés, elle est d'abord familiale. Hein. Chaque jour, le juge des libertés et de la détention est saisi d'affaires de violence, soit qui touchent les femmes, on en parle beaucoup, ou qui touchent les enfants. Je rappellerai que, selon certaines statistiques, un enfant décède tous les 5 jours suite au mauvais traitement infligé par ses parents. On dit que le grand tabou donc de l'humanité c'est l'inceste, mais force est de constater que donc l'inceste est relativement fréquent. Nous sommes régulièrement saisis chaque semaine d'une affaire de ce type. Alors il me vient à l'esprit donc le cas d'un homme d'une cinquantaine d'années, d'origine algérienne, tout à fait inséré sur le plan professionnel et social, qui sodomisait depuis l'âge de ses 15 ans sa fille handicapée. Et il niait complètement les faits, il continue d'ailleurs de nier les faits en alléguant d'un complot familial. Donc la cruauté de cette situation m'a frappé bien évidemment. La faille de cet individu, c'est qu'il avait perdu son épouse et qu'il visionnait des films pédopornographiques à caractère incestueux.
Est-ce qu'il était conscient de la gravité de ce qu'il avait commis, semble-t-il, pendant plusieurs années?
Il contestait totalement les faits. Donc, il ne s'interrogeait absolument pas sur leur gravité. La souffrance de la victime est relativement évacuée dans leur discours.
Vous sembliez dire que certains sont parfaitement insérés. Et je crois que vous avez eu affaire notamment au cas de cet homme qui avait un emploi de cadre dans la sécurité, dont la femme était policière, et qui ne semble pas avoir mesuré la gravité de ce qu'il a commis pendant des années sur sa fille aînée.
Vous faites allusion à un cas d'une particulière perversité, puisqu'il s'agissait d'un père tout à fait inséré, avec un très bon niveau socio-culturel, qui auto-prostituait sa fille, c'est-à-dire qu'il payait sa fille pour la violer, moyennant une grille tarifaire qu'il avait constituée. Effectivement, donc tout cela est éminemment destructeur pour l'enfant.
Est-ce qu'il l'a mesuré?
Non, pas vraiment. Généralement, c'est très rare que les individus reconnaissent, mesurent pleinement la gravité de leurs actes devant le juge des libertés et de la détention. Il y a tout le travail ensuite qui est fait par les psychologues, les psychiatres en détention, puis après le jugement. Lorsque j'ai commencé, en fait, je pensais avoir affaire à une forme de délinquance assez banale, basée sur le profit, l'appât du gain ou des violences impulsives, réactionnelles. Mais j'ai vite effectivement mesuré la gravité de la situation dès en fait mes premières années, dès mon année de stage en tant qu'auditrice de justice. J'étais confrontée à l'ultra-violence, à la perversité. Je pense que je me souviendrai à vie de certaines affaires, de la souffrance de certaines victimes. Le juge des libertés et de la détention, il est confronté à la banalité du mal, dans ses formes extrêmes et dans son opacité aussi.
Est-ce que vous avez le sentiment que cette violence faite aux enfants dans un cadre intrafamilial est suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics ?
Les pouvoirs publics, me semble-t-il, commencent à prendre en compte l'ampleur, la gravité de la situation. Mais cela demeure insuffisant. Il y a eu un premier plan de lutte contre ces violences faites aux enfants en 2017, qui a été suivi d'autres plans interministériels. Mais cela demeure insuffisant parce que les chiffres sont absolument catastrophiques, terrifiants. Et c'est un phénomène que l'on veut occulter. La parole commence à se libérer, surtout en ce qui concerne les violences sexuelles faites aux enfants. En ce qui concerne les violences physiques, psychologiques, de maltraitance, le phénomène est encore occulté.
Ce sont pour l'essentiel des hommes qui commettent ces exactions.
Alors pour l'essentiel, ce sont des hommes, mais parfois, il y a aussi des femmes. Et je dirais que la violence féminine, elle est encore taboue dans nos sociétés parce qu'on sacralise l'image de la mère. Je me souviens l'année dernière d'un enfant qui avait été jeté par la fenêtre par sa mère, une jeune femme. Nous avons un certain nombre d'affaires dites de bébés secoués, ce qui cause d'importantes séquelles neurologiques à ces enfants. Il existe quelques cas en justice, et c'est très éprouvant pour le magistrat que je suis, d'affaires de mères particulièrement sadiques. J'ai en mémoire le cas d'une femme, effectivement, qui a infligé des viols, des sévices sur la sphère génitale de ses trois enfants. Bien souvent, effectivement, on est face à une précarité sociale. C'est aussi le résultat d'une histoire personnelle. Je me suis penchée sur son expertise. C'est une femme très intelligente, d'origine sénégalaise. Et elle a été victime de la polygamie. Quatrième épouse, elle a subi de très, très importantes violences conjugales qui lui ont occasionné une fausse couche. Et à partir de là, sa personnalité a été déstructurée.
Est-ce qu'il a pu vous arriver de douter avant de prendre votre décision?
Il y a des décisions qui, effectivement, altèrent le sommeil. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à des gens qui enlèvent des enfants et les font disparaître, il est sûr que les magistrats que nous sommes dorment très mal, ils vivent très mal la situation. Il faut veiller à conserver une hygiène mentale, c'est-à-dire mettre de côté ses problèmes personnels lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes donc en justice, puisqu'il faut garder la sérénité des débats. La notion de sérénité de la justice est très très importante. Vous devez donc conserver un calme mental, une hygiène mentale de vie, qui consiste donc d'une part à oublier votre vie personnelle, qui peut comporter effectivement aussi ses douleurs et ses drames, et puis cultiver un regard vigilant, je dirais, aux formes de beauté. J'ai besoin d'équilibrer mon psychisme en contemplant la beauté sous toutes ses formes, la beauté de la nature, la beauté dans l'art et la beauté aussi de certaines relations humaines.
Outre les violences intrafamiliales, dans les quartiers, dans certains quartiers, vous semblez frappé par la montée d'une nouvelle forme de délinquance qui est la prostitution de mineurs. On rejoint encore les violences faites aux enfants, mais cette fois dans un contexte de délinquance extra-familiale.
Alors effectivement, on est confronté à une nouvelle forme de proxénétisme qui tente à se développer depuis quelques années. Donc c'est un proxénétisme exercé par des jeunes majeurs sur des très jeunes filles de 15-16 ans via Internet, via des sites comme Wanons et Sex Model. C'est une forme de proxénétisme très mobile sur le territoire national qui cible des jeunes filles carencées, affectivement. La rencontre se fait en général sur Internet, mais pas exclusivement. La jeune fille est souvent séduite, elle tombe amoureuse de son proxénète. Ça commence comme ça, de manière assez finalement consensuelle, et ça se termine souvent sous forme violente. Alors la femme, la jeune fille, est considérée comme une esclave sexuelle. Dans certains cas, elle peut être séquestrée, violée en représailles.
Est-ce que les jeunes gens qui se livrent à ces activités sont conscients? Ou est-ce que là encore, ils pensent que la jeune fille était consentante? Est-ce que les proxénètes, entre guillemets, sont conscients de la gravité de ce qu'ils font? Parce que ces jeunes filles sont mineures, souvent.
Alors, leur conscience de la gravité de l'infraction, elle est réduite. Elle est souvent annihilée parce que leur propre éducation sexuelle s'est faite essentiellement par le visionnage de films pornographiques. Ils sont nourris aussi, imprégnés de jeux vidéo ultra-violents qui chosifient les femmes. Hein. Ce sont c'est toute une culture machiste hyper violente qui intoxique ces jeunes depuis un âge très, très tendre.
Quelles sont les rémunérations? Est-ce que c'est un marché très lucratif?
Oui, c'est un marché lucratif qui est souvent plus lucratif que celui de la drogue. Est moins risqué, souvent, en termes pénal, eh bien, on peut dire qu'un jeune peut gagner 10 000 euros par mois en prostituant une ou deux de ces jeunes filles.
Les clients ne sont pas des jeunes des cités?
Non.
C'est des adultes
Ce sont des adultes qui ne sont pas inquiétés. Enfin, je n'ai pas vu pour l'instant d'adulte qui est passé devant moi, devant le juge des libertés de la détention, effectivement. Je n'ai pas vu ce genre d'individu devant moi. Et c'est très facile de commander, si je puis dire, sur Internet, une fille, hein, comme on commande une pizza. Dans les faits, moi, je n'ai pas vu encore de procédure concernant ces clients. Et pourtant, il y a des jeunes filles mineures. Certaines affaires, émotionnellement, vous marquent particulièrement. C'est une affaire qui est dite l'affaire du campement de l'horreur, ainsi que les médias l'ont appelée. C'est une affaire de 2006 que j'ai eu à connaître quand j'étais juge des libertés de la détention à Meaux et qui m'a particulièrement marquée. Alors, il s'agit d'un couple tout à fait banal, ordinaire, qui s'est avéré être un couple de tortionnaires, qui, dans un campement de caravane, faisait régner une forme de nazisme. D'ailleurs, ce sont les termes d'ailleurs qui ont été employés, je crois, par le procureur général lors du procès en assise. Donc, il réduisait en esclavage plusieurs individus vulnérables, âgés, handicapés, etc. Et notamment une jeune fille, dont le cas m'a particulièrement frappé, Sabrina, qui avait été initialement vendue pour une voiturette par ses parents. Donc oui, il existe effectivement des ventes d'enfants aussi sur le territoire national. Et cette jeune fille, cet enfant, cette adolescente, puis cette jeune fille a été séquestrée, violée, torturée. Son RMI était aussi spolié. Torturée d'ailleurs au point qu'elle en a été défigurée. C'est un cas effectivement particulièrement épouvantable qui m'a singulièrement marqué. Mais vous êtes alors face à des questions quasi métaphysiques, hein, celles du mal hein, absolu, parfois, qui existent encore dans nos sociétés. J'ai placé en détention donc ce couple et aussi certains acolytes qui étaient des matrones tout à fait banales, je me souviens. Et alors, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait une arrogance extrême de ces personnes. Lorsque j'ai placé en détention, je me souviens très bien, une de ces acolytes, une de ces matrones, elle m'a dit « mais finalement, on aurait dû la tuer, hein, Sabrina ». Puisque pour ce prix-là, sous-entendu, de la détention, on aurait dû la tuer.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tout ça dans une banalité totale, sans affect particulier. Au procès, c'est le bourreau, l'homme du couple, qui s'est exprimé et qui a dit que finalement, si Sabrina avait été dans cet état, c'est-à-dire comme sortant d'un camp de concentration, c'est ce qui avait été constaté par les médecins, si l'état de Sabrina en était là, c'était de la faute de la police, parce que la police n'avait pas agi rapidement.
Et Sabrina, pourquoi est-ce qu'elle, enfin, elle était handicapée ou pourquoi, enfin, comment cette affaire a pu perdurer?
Alors, d'après les experts psychiatres, psychologues, Sabrina a été dans la sidération finalement pendant des années. Elle était tellement opprimée, tellement esclavagisée, et c'est en fait par l'intermédiaire d'un des membres de ce microcosme concentrationnaire, qui quand même se rendait compte, semblait-il, quand même de la gravité de la situation, et qui était lui-même aussi plus ou moins victime, parce qu'il y avait des membres qui étaient à la fois utilisés par le couple de bourreaux, mais aussi victimes. Et cet individu l'a amené finalement à l'hôpital, je crois que c'était à la Pitié-Salpêtrière, et c'est là effectivement qu'on s'est rendu compte des ravages, des tortures qu'elle avait subies. Il arrive effectivement qu'on soit menacé de mort, qu'on soit insulté. Bon, certains, si vous voulez, ne comprennent pas finalement le rôle de la justice, la mission du juge des libertés et détentions, qu'est-ce que c'est qu'une instruction.
Ça vous est arrivé récemment ?
Oui, ça m'est arrivé encore il y a 2 jours, effectivement. Oui, d'être menacé de mort. Alors, juste en sortant de la salle d'audience. Voilà, effectivement, ça peut arriver. J'avais reçu aussi, en tant que juge de l'application des peines il y a quelques années, un courrier extrêmement menaçant d'un individu paranoïaque. Voilà, qui me menaçait aussi. J'ai été aussi agressée physiquement, il y a une dizaine d'années, par un individu désespéré qui a tenté de m'étrangler. Mais c'est une fonction à risque.
Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de L'Obs. Une musique de Michaël Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.